Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado d'LNH.com. Nicolas Ducharme au micro, je vous parle en ce jeudi 12 mars. Ben oui, 12 mars, jeudi. On s'est dit qu'on allait repousser le balado d'une journée aujourd'hui pour deux choses. Premièrement, les Canadiens jouaient deux matchs, jouaient hier à Ottawa, avant-hier à Toronto. Donc, on s'est dit on va avoir un petit bilan de ça. Puis bon, soyons francs, si vous êtes au Québec, surtout dans la portion plus au sud du Québec, ben on craignait perte d'électricité hier. Fait qu'on s'est dit, gars, on va repousser un petit peu, on va laisser une chance aux gens. De toute façon, les Canadiens ne rejouent pas avant samedi. Donc, on va pouvoir parler de tout ça aujourd'hui à l'émission avec mes deux collègues qui ont bravé la tempête, bravé les éléments pour vous parler. Tout d'abord, Guillaume Lepage. Salut, Guillaume.
Salut, Nick. Moi, j'ai bravé la tempête pour une petite marche jusqu'à la brasserie des Patriotes. La chic brasserie des Patriotes hier pour regarder le match du Canadien avec une bonne Laurentide et un bon bol de spaghettis.
Bon, du vrai.
Je suis jaloux.
Du col bleu. C'est à peu près la seule manière que nous qui tapons au clavier à longueur de journée, on peut se sentir un peu col bleu. C'est dans les repas qu'on va chercher la 50. Et Jean-François Chaumont, JF, toi qui t'as vraiment bravé les éléments parce que ouais, t'es monté à Ottawa hier pour le match avant-hier. Là, t'es parti après celui contre Toronto, t'as monté à Ottawa à travers la pluie vers
les Leafs. Les Leafs jouaient contre le Canadien en mardi soir, donc après le match. Moi et le collègue Simon-Olivier Lorange de La Presse avons partagé une voiture, avons décidé de rouler jusqu'à Canada. Puis honnêtement, c'était une parfaite décision. Les routes étaient très belles dans la nuit de mardi à mercredi. C'était un petit peu moins bien mercredi à Ottawa, mais c'était pas l'enfer non plus. Mais j'ai quand même réussi à briser le balai à neige offert par Enterprise ou Avis d'une valeur probablement de 99 sous au Dollarama. Deux coups de balai, puis boum, il était brisé. Donc, ça, il était peu impressionné. Il a grogné un petit peu, mais on a racheté un autre.
De toute façon, Sol qui grogne, écoute, là, on
ça se peut que ça passe sur un rapport de dépenses de la presse, un balai à neige.
Puis Guillaume, toi, t'es allé, on va en parler plus tard dans l'émission, mais t'es allé du côté de Blainville-Boisbriand. Je sais jamais, l'aréna,
L'aréna est à Boisbriand, mais techniquement, il appartient à Blainville.
Oh! Okay.
Ils ont vendu, dans le fond, l'aréna.
OK. Ça sent les choses compliquées. Mais vraiment, tu es allé là ce matin, tu étais parlé avec, entre autres, Xavier Villeneuve, qui est le meilleur espoir québécois pour le prochain repêchage. Tout ça à travers les morceaux de glace qui revolaient un peu partout à travers sur l'autoroute à éviter. D'ailleurs, on salue notre directeur à l'information, Sébastien Deschambault, qui... lui a été victime de tout ça. Donc, les gens, on a reçu une en plein pare-brise, comme on dit. Donc, les gens, si vous partez aujourd'hui, vous nous écoutez, peut-être même demain, ça va se mettre peut-être à décoller demain, peut-être donner un petit coup sur votre voiture, éviter tout ça. Et on salue tous les parents qui sont à la maison aujourd'hui ou hier, peu importe, mais qui ont les enfants à la maison. D'ailleurs, si vous voyez un petit gars de 6 ans courir en arrière de moi à un moment donné, ben c'est peut-être parce que le petit Zachary a réussi à décider de venir rendre visite dans le studio parce qu'il est à la maison. Donc, c'est comme ça. Ça va me rappeler, souvenez-vous, début pandémie, là, souvenez-vous de la vidéo là, de l'expert en je sais pas quoi, là, sur la BBC en Angleterre, puis il y avait l'enfant qui était enfants qui étaient rentrés en arrière en dansant, puis un dans le parc. Ça se pourrait qu'on revive ça aujourd'hui. Si vous nous écoutez sur vidéo, bien évidemment, vidéo maintenant, on est sur Spotify, donc vous pouvez nous regarder en vidéo sur Spotify ou on le met aussi là, sur le site web de lnh.com. Puis en audio, bien, on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute à peu près qui peuvent exister. Donc faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Messieurs, on se lance... Hier, j'entendais beaucoup à travers les médias que c'était le match le plus important de la saison pour les Canadiens et les Sénateurs jusqu'au prochain, là, on s'entend. Là. Mais c'était quand même un match important et ça ressemblait à un match des séries du côté de Canada. JF, victoire des Canadiens à l'arraché dans ce qui était un match quand même qu'on a dû justement travailler comme en méthode séries éliminatoires et... On peut parler du match-là, mais on s'entend que l'histoire qui a retenu l'attention avant même le début de la rencontre, c'est le rappel de Jacob Fowler qui a obtenu le départ pour cette rencontre-là.
Oui, c'était le choix du gardien qui prenait tout le plancher. Deux matchs en deux soirs pour le CH. On ne voulait pas presser sur le citron et offrir un deuxième départ d'affilée à Jakub Dobech. Et surtout, c'est un signe qu'on ne faisait pas confiance en Samuel Montembeau. Donc, préfère rappeler Jacob Fowler du côté du Rocket de Laval. En matinée, Martin Saint-Louis, le CH ne patinait pas. Donc, Martin Saint-Louis rencontrait les médias du côté de Kanata, là, dans un hôtel de Kanata. Il était plus ou moins d'humeur à parler des gardiens. En temps normal, il n'aime pas parler des gardiens. Quand tu viens d'en ajouter un troisième dans l'équation, encore moins. Après une minute et demie, deux minutes, il nous a gentiment dit « Ben là, j'espère qu'il n'y aura pas une quarantaine de questions par rapport aux gardiens. Nous avons choisi de rappeler Fowler. Nous croyons que c'est lui qui nous offre les meilleures chances de gagner. » Puis ultimement, bien, c'était le bon choix de l'organisation. Jacob Fowler a été un très, très gros morceau de cette victoire de 3-2. 32 arrêts pour Fowler, mais c'est surtout son calme, son assurance devant le filet. En deuxième période, il bloque Amadio sur une échappée, Michael Amadio. Et en fin de match, ça bourdonnait. Le 6 contre 5, il y a eu 6 tirs des Sénateurs.
Dans la dernière minute et demie. Là.
3 de Claude Giroux, 2 de Dylan Cousins. Il y a eu 9 tirs tantôt au total. Mais Fowler n'a pas craqué. Résultat, le CH part avec la victoire. Puis après le match, j'ai trouvé ça intéressant quand Martin Saint-Louis disait « Oui, tu as besoin d'une structure, tu as besoin de jouer à l'intérieur de ton système défensivement, mais tu as également besoin d'arrêt. » Donc ça, c'est un petit message à Samuel Montembeau ou à Jacob Debèche. Fowler, oui, a fait le travail, mais après la rencontre, j'ai quand même remarqué là, une plus grande délicatesse dans les propos de Martin Saint-Louis quand il a dit que c'est son rôle de leader d'y aller de décisions parfois difficiles, de décisions qui peuvent faire mal à des joueurs que tu aimes. Il n'a pas mentionné Montembeau, mais tu pouvais facilement lire entre les lignes et comprendre qu'il parlait de Samuel Montembeau. Mais il dit qu'il faut parfois prendre des décisions courageuses. Ça a été le cas. Puis Jacob Fowler, on connaît son potentiel, on connaît son talent. C'était quand même un gars qui avait joué un seul match en pratiquement un mois. Il avait été ralenti par un virus, donc il avait peu de volume. Il avait gagné son match contre les Americans de Rochester le 6 mars. Mais à son premier départ de retour dans la Ligue nationale, mais on a vu le jeune Jacob Fowler talentueux. Puis si tu regardes de l'autre côté, le but gagnant du CH dans ce match-là, le but d'Ivan Demidov, c'est exactement la scène que le CH ne voulait pas voir. C'est un mauvais but donné par Linus Ulmark, un mauvais contrôle de retour sur un tir d'Alex Newhook, puis Demidov marque. C'est un petit peu à l'image de la saison des Sénateurs d'Ottawa. C'est une équipe qu'il y a de bons chiffres quand tu regardes les statistiques avancées, mais les gardiens ne font pas le travail sur une base régulière. Dernièrement, c'était mieux. Mais hier, contre le CH, Fowler a clairement été meilleur que Linus Ulmark.
Ça n'a pas été long qu'on a entendu les fameux mots qui reviennent toujours à Montréal quand on parle d'un gardien. Price, Roy, ouais. Dryden, Bill Dernan et Georges Vézina.
Contentons-nous, on peut se contenter de Jacob Fowler.
Mais c'est
ça. Il écrira sa propre histoire.
On n'entend pas de Jeff Hackett, Andy Moog. Ces noms-là ne reviennent pas souvent.
Non,
Ben Scrivens.
Ils sont moins populaires un peu. Mais c'est ça quand même. Là. Fowler se fait gonfler les pneus depuis 2 ans, 3 ans. Toi, t'allais le voir à Boston College, Guillaume, puis tu sais, déjà là, il y avait de l'intérêt, puis tout ça. C'est énorme comme pression de l'amener présentement en fin de saison, en course en séries éliminatoires. Là, les Canadiens ont un plus beau coussin que quand on s'est parlé vendredi dernier. Là, d'ailleurs,
une petite couche de plus. Quand vous m'avez
reproché d'avoir utilisé le mot. Mine de rien, le tricolore a 7 points en 8 matchs. Et là-dedans, il y a un voyage dans l'Ouest où il fut une époque. Si on pouvait aller chercher 3 points sur 6 dans l'Ouest, on se contentait de ça puis on revenait avec un beau gros sourire, ce qui est arrivé. Mais c'est énorme comme pression pour Fowler, ce qu'on va voir présentement, ce qu'on va voir d'ici à la fin de la saison. Vous gérez ça comment si vous êtes les Canadiens? Est-ce que on y va avec 3 gardiens? Est-ce que Fowler tombe l'homme principal? Est-ce que c'est Dobesch qui est l'homme principal avec Fowler qu'on intègre lentement? C'est une patate chaude. C'est une énorme patate chaude qu'on comprend, mais une patate chaude, c'est bon une patate, là. Tu sais, puis c'est ça qu'on veut d'ici la fin de la saison.
Tu ajoutes un peu de beurre dessus, là.
Tu ajoutes un peu de beurre, puis tu sais, de la crème sure, un peu de bacon, puis des échalotes. Mais mon point, c'est cette patate chaude-là, on a décidé de l'avoir chez les Canadiens. On a pris ce choix-là, et là, on se dit, Jacob Fowler, ben, est-ce qu'on t'es notre homme? Comment on procède, là, selon vous, là?
Ouais, tu sais, je pense que le Canadien va revenir avec Jakub Dobesch samedi. Puis on a une autre situation de deux matchs en, ouais, en deux soirs. Donc, probablement Fowler dimanche après, ensuite de ça. Pour l'instant, j'ai comme l'impression, tu sais, hier, le message, Martin Saint-Louis en a glissé un mot sans le nommer, mais le message à Samuel Montembeault, c'est « on n'a plus confiance en toi ». C'est assez clair comme ça. Fait que ce serait très surprenant de voir le Canadien revenir avec Montembeault rapidement après une décision comme celle-là. On s'entend que le match d'hier, avec 7 points de différence entre le Canadien et les Sénateurs avant la rencontre, t'envoies Fowler devant le filet. C'est un peu... C'est le match... C'était le match le plus important jusqu'au suivant.
Jusqu'au prochain.
Parce que cette victoire-là donne un bon coussin à l'équipe. Donc, c'est un gros message là, d'envoyer ta recrue puis lui dire ben on compte sur toi, on a confiance en tes moyens pour que tu ailles nous chercher cette victoire-là. Fait que j'ai vraiment de la misère à voir comment le Canadien va revenir avec Samuel Montembeault à court terme. Ensuite de ça, est-ce qu'on dit que Samuel Montembeault ne jouera plus de la saison? On ne peut pas l'exclure. Mais en même temps, il est dans le giron de l'équipe, tu as cette option-là. Si jamais Fowler flanche, si jamais Dobesch flanche, ben on peut peut-être essayer de le ramener après quelques semaines, quelques jours de travail avec Marco Marciano. Mais pour ma part, je pense qu'à court terme, ça va être un duo Dobesch-Fowler. Si ça va bien jusqu'à la fin de la saison, ben on risque d'entrer en série avec ces deux gardiens-là parce que c'est plate à dire, mais Samuel Montembeault a eu quand même beaucoup de chance dans cette saison-là. On lui a donné du temps pour travailler sur son jeu. On a congédié l'entraîneur de gardien. On l'a mis dans une position confortable avec Marco Marciano. Puis finalement, ben les résultats sont pas là. Puis probablement, le match, son dernier match contre les Ducks d'Anaheim, ça a été...
un des plus difficiles de la saison.
C'est bien...
De loin, c'est ça.
Il a donné deux très mauvais buts de loin. Il a réalisé des super arrêts dans ce match-là. Il a aussi été solide. Il a tenu les Canadiens dans le match en fin de rencontre, puis en troisième période, puis tout ça. Mais c'est que tu te retrouves tout le temps avec un, deux buts de trop qui te force à jouer cette situation-là. Puis tu peux pas jouer justement tout le temps avec le couteau entre les dents en fin de saison. Faut que tu trouves un rythme qui est approprié pour une équipe qui veut rentrer de la bonne façon en séries éliminatoires. Puis je regardais les statistiques au niveau des le pourcentage d'arrêt, puis ça sur les tirs moins dangereux, low danger chance qu'on appelle. Puis Montembeault est dans les pays de la Ligue nationale là, parmi les gardiens partants avec Jordan Binnington, puis tout ça. Tu peux pas, comme tu dis... Cette décision-là, d'après moi, s'est prise après ce match-là contre les Ducks. Il n'y avait pas de scénario où on pouvait ramener Montembeault. Mais là, je vous amène la question parce que tu en as parlé, Guillaume. C'est quoi, dans quel type de scénario Montembeault pourrait revenir devant le filet? Parce que si on se retrouve dans une situation où Fowler et Dobesch ne font pas le travail, ça veut dire qu'on va ramener Montembeault dans une situation où le coussin va probablement avoir disparu. On va être peut-être même plus en série ou vraiment juste sur la limite des séries éliminatoires. Puis tu ramènes un gardien qui est complètement froid. Encore là, c'est une situation qui est impossible à vivre pour les Canadiens. Là.
Peu importe comment tu tournes la question, celui qui a la clé, la réponse, ça reste Jakub Fowler. Si Jakub Fowler fait le travail, ils ont pu à essayer de sauver la saison de Samuel Montembeault. Il est déjà trop tard. Je pense que le duo peut rapidement s'établir entre Jakub Fowler et Jakub Dobesch. Juste avant qu'on rentre en onde, je m'amusais à sortir une statistique. Je regardais les trois gardiens pour 4 buts ou plus dans un match. Jakub Dobesch, 30 départs, 8 fois, il a donné 4 buts ou plus, donc 26,6%. Jakub Fowler, 11 départs, 3 fois, il a donné 4 buts ou plus. C'est identique à Dobesch, 27%. Samuel Montembeault, 23 départs, 10 fois, il a donné 4 buts ou plus. On arrive à 43%. C'est pratiquement un match sur deux où Montembeault te donne 4 buts ou plus. T'as beau avoir une machine offensive, tu peux pas survivre à 4 buts ou plus. Puis tu sais, Martin Saint-Louis va souvent dire qu'il veut voir un côté prévisible chez ses joueurs. Mais c'est une boîte à surprise, Samuel Montembeault, avant les Jeux olympiques. Contre les Jets à Winnipeg, il sort peut-être son meilleur match de l'année. Tu te dis à ce moment-là, OK, il a travaillé avec Marco Marciano, il commence à récolter les fruits, se replace. Contre les Islanders, au retour au Centre Bell, Je considère pas qu'il a été faible ou quoi que ce soit. Le but égalisateur d'Endersley, c'est Lee qui fait dévier la rondelle avec son propre corps. Mais il perd quand même ce match-là 4-3. Puis après ça, Anaheim, ben, le château de cartes s'écroule complètement. Un mauvais départ. Il accorde quoi? C'est 6-5 le pointage final. Il accorde 5 buts. Tu peux pas non plus... Tu sais jamais sur quel pied danser quand tu offres un départ à Samuel Montembeau. Donc, si Fowler est moindrement solide d'ici la fin de l'année, Fowler et Dobesch risquent de se partager le travail. Mais tu peux pas y aller d'une certitude. Fowler a besoin de jouer aussi. Il est jeune. Si jamais lui s'enfarge dans les prochains matchs, c'est possible qu'on va revoir Samuel Montembeau. Puis surtout le calendrier, là, je crois qu'il y a 3 autres séries de 2 matchs en 2 jours d'ici la fin de la saison. Puis ça s'en vient quand même vite la fin de la saison. Il reste 4 semaines. Mais ils sont à une période de l'année où la victoire, les points passent bien avant le développement d'un joueur.
Oui, il y a c'est en avril, tu as 2 autres matchs en 2 soirs en plus de ça.
En mars aussi, fin mars aussi, il y en a un.
Oui, il y en a un autre. Fait qu'il en reste 4 si on considère, si on compte en plus qui s'en vient en fin de semaine. Donc 4 fois, dont je pense même.
Et on disait
à l'étranger. Il y a une fois que c'est les 2 matchs à l'étranger, puis il y a une fois où tu dois quand même voyager. Là, donc tu sais, c'est souvent. Ben, là, tu vas te retrouver avec une situation et c'est plate à dire, là. Où tu peux envoyer Fowler ou Dobesch dans l'autre ville tout de suite, comme on a fait plus tôt dans la saison, puis mettre Montembeau sur le banc. J'imagine que c'est pour ça qu'on n'a pas échangé Montembeau à la date limite des transactions, parce que...
Mais ça te servait à quoi d'aller chercher un choix? T'es aussi bien de garder un gardien qui a de l'expérience.
Non,
ça te donne une police d'assurance supplémentaire.
Ouais, puis je m'excuse, mais le match que ça n'a pas bien été contre les Ducks, c'était après la date limite des transactions. Donc, la décision, la goutte qui fait déborder le vase n'avait pas encore tombé. Donc,
Guillaume, qu'est-ce que tu allais dire?
Ça avait l'air bon, en tout cas, ce que tu allais dire.
Ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec avec Fowler, on l'a dit, il a été blessé pendant près d'un mois. Bien, c'est quand même un gardien qui est reposé à la veille de ce dernier stretch-là qui va être assez intense du côté du Canadien. Donc, c'est quand même un élément à ne pas négliger, là, je pense, d'avoir un jeune gardien qui a de l'énergie et tout ça, qui est capable de livrer la marchandise. Je pense que c'est un beau plus pour le Canadien aussi là, dans cette situation-là.
Tu sais, je veux pas avoir la prétention de dire que je connais Jacob Fowler, mais de ce que je perçois du bonhomme, hier, après le match dans le vestiaire, il disait qu'il se sent qu'il fait partie de cette équipe-là.
Oui.
Il avait déjà joué 10 matchs avec le CH. Pour lui, c'était plus facile de réintégrer le vestiaire. Il n'y a pas le syndrome de l'imposteur, de celui qui arrive un peu de nulle part.
C'est moi exact, là, GF, c'est moi exact, parce que moi aussi, ça m'a frappé. Il m'a dit « Je suis de retour dans une équipe qui, je crois, était déjà la mienne. »
Oui, exact.
On a team, I was already
I belong,
part of,
ou quelque chose comme ça. Donc,
I belong, c'est ça. Donc, c'est
un signe qui a confiance en lui, il a confiance en ses moyens. Puis, tu sais, il se sent bien dans ce vestiaire-là. Les joueurs l'ont bien accueilli également. Puis tu pouvais voir la réaction après le match dans le vestiaire aussi. Tout le monde disait que s'il sortait d'Ottawa avec 2 points, c'est un gros merci à Jacob Fowler. Puis juste dans les premières secondes du match, là, je pense que c'est Dylan Cousins encore qui a un tir dans l'enclave. Bang, c'est l'arrêt. Mais si tu recules au voyage en Californie, il y avait eu finalement contestation et hors-jeu, mais les Ducks avaient remarqué un autre but avant même la fin de la première minute. T'as pas mal un match quand tu regardes le tableau puis c'est déjà 1-0 sur le premier ou le deuxième tir. C'est un petit peu démoralisant.
Ouais, un but et demi parce qu'il avait compté ensuite sur le premier tir. Donc, c'était ça la saison de Samuel Montembeau. On dirait qu'il tombe froid.
Ouais.
En début de match, il est froid, puis il est incapable de suivre la rondelle, le tracking qu'on appelle en bon français, là, mais il est incapable de s'ajuster à l'arrivée des tirs, à la vitesse des tirs. Ça se place par la suite, mais t'es déjà en arrière 1-2-0. Ça pouvait plus.
Ce qui est drôle, c'est que mardi, le collègue Mike Zeisberger était sur la galerie de presse au Centre Bell, puis on parlait, il disait, je pense qu'il s'est fait demander si c'était un autre scénario à la 93 où le Canadien va se faire un chemin jusqu'à tard en série. Puis on a répondu, ben ça va être difficile avec les gardiens qu'il y a. Puis on a soulevé l'hypothèse. On a dit, ah, ben tu sais, ça pourrait faire comme un Patrick Roy en 86, 26. Un Fowler qui arrive puis qui prend le lead. Et honnêtement, là, je veux pas, tu sais, j'aime pas ça quand les Price et compagnie, là, tout ce qu'on a entendu depuis hier soir, là, puis là, le sauveur est arrivé. J'aime pas ça faire ça, mais selon ce que je vois de Jakub Dobesch, moi, je suis plus ou moins rassuré quand il est devant le filet. Il fait le travail, il va réussir, il parvient à faire les arrêts, mais c'est jamais nécessairement facile. T'sais, c'est un gardien qui est un peu plus échevelé, qui est moins square devant la rondelle et tout ça. Hier, de voir Jacob Fowler jouer comme il l'a fait, il a rarement été déporté, rarement été hors position, toujours très solide. Je me dis, dans un mois, si Fowler continue de bien aller, est-ce que c'est lui qui entre en série comme le numéro un de cette équipe-là? C'est beaucoup de pression à mettre sur ses épaules, mais le Canadien, c'est cette année, c'est de faire les séries puis peut-être faire meilleure figure que l'année dernière, mais il n'y a pas de pression d'aller en finale de l'Est ou... Tu sais, je vois pas de point négatif à donner un peu de millage à Jacob Fowler en série si... s'il réussit à maintenir le rythme qu'il a démontré hier jusqu'à la fin de la saison.
Mais juste pour répondre à ton hypothèse, Guillaume, je vais simplement dire que ce scénario-là est loin d'être impossible, de voir Jacob Fowler devant le filet du CH en série. C'est un scénario à considérer.
Puis l'autre parallèle avec 1986, c'est que les Canadiens, c'était une équipe qui avait reconstruit après la dynastie des années 70. On avait eu quelques années moins bonnes au début des années 80. Puis t'es arrivé en 86, c'était une équipe qui... vraiment sortait, qui avait surpris, là, soyons francs. Là, on se souvient de ce qui s'était passé. Tu avais eu l'arrivée de Patrick Roy qui avait pris la place, j'essaie de me souvenir, t'as-tu à ce moment-là Steve Penny ou peu importe.
Steve Penny,
puis tout ça. Puis même, tantôt, je parlais de Ken Dryden. Ken Dryden arrivait en 71. Les Canadiens n'étaient pas favoris, je pense, pour gagner la Coupe cette année-là. Puis avait pris la place de Rogatien Vachon. Fait que quand on dit prendre la place, un Fowler pourrait prendre la place rapidement d'un Dobesch. Mais c'est le même type de scénario où même Dobesch n'est pas un vétéran, puis Vachon...
Dobesch n'est pas vraiment établi comme numéro un. Il est un peu numéro un par défaut en ce moment, mais là, Fowler arrive. Je pense que ça va mettre une certaine compétition interne. Puis ça peut être que positif pour le Canadien.
C'était Steve Penny et Doug Stoddart en 86. Donc, ça c'est bien.
On peut faire le parallèle, mais je parle pas, tu sais, je pense pas qu'on est en train de dire que Fowler va mener le Canadien à la Coupe Stanley, mais le parallèle, c'est déjà vu, le fait
Cam
de rentrer un gardien reclus.
C'est ça, Cam Ward, Bennington.
Peu importe le parcours du CH en série, si jamais Jacob Fowler obtient des départs, c'est simplement de l'expérience en banque. Oh oui. Ça peut être que positif. Si t'entoures déjà son nom comme étant le gardien du futur de cette organisation-là, mais de lui donner le relais puis de le voir obtenir des minutes en série, ça va le faire grandir. Il n'y a rien de mal à ça. Mais ça se peut aussi que ce soit Jakub Dobesch qui reste le gardien numéro un. Là, on fait beaucoup de millage sur Fowler. Il a été très bon à Ottawa. Mais il doit maintenir, puis il doit continuer. C'est un match depuis son rappel. On s'en reparlera dans deux semaines aussi.
Chose que Dobesch a su faire dans les derniers matchs, pas parfaitement, mais il a su être constant. Tu sais, je regardais ses
statistiques
avancées.
Il est très combatif.
Avancées.
Dobesch, c'est sa grande qualité.
C'est un fighter, mais ses statistiques avancées, jusqu'à il y a environ, avant la pause olympique, là, Samuel Montembeau, puis Jakub Dobesch, mis à part les victoires, qui n'est pas une statistique de gardien, je vous le rappelle, les victoires, c'est une statistique d'équipe, pas de gardien. Les statistiques avancées, c'était pas mal la même chose. C'était deux gardiens similaires. C'est juste que quand Montembeau donnait un but mauvais, ça se voyait pas mal plus que quand Dobesch le faisait. Mais là, il y a eu une grosse différence qui s'est faite dans les derniers matchs. Puis c'est là que Dobesch a gagné sa place. Êtes-vous quand même à l'aise? Deux gardiens recrues d'ici la fin de la saison et en série. C'est une chose. Deux...
C'est quoi l'autre solution?
C'est ça.
T'as beau être à l'aise ou non, c'est la réalité. C'est tout.
C'est tout. On fait avec, puis tout ça. Parlant de réalité, il y en avait une hier chez les Canadiens, l'absence de Cole Caulfield. Il est malade, ouais. Cole. Ça arrive à tout le monde. C'est l'hiver, puis tout ça. Mais Cole Caulfield n'était pas là. selon ce que Martin Saint-Louis a dit, c'est pas un virus qui frappe l'équipe. C'est seulement Caulfield.
Ouais, mais Alex Newhook, dans le vestiaire de l'équipe, a dit qu'il y a quelques joueurs qui sont ralentis ou incommodés par un virus. Donc, peut-être pas le virus le plus virulent, mais je pense que Martin voulait juste pas trop embarquer sur ce sujet-là.
Ouais, parfait.
On peut fermer la parenthèse.
Good. Mais Caulfield n'était pas là. Ça a ouvert la porte au retour au jeu d'Alexandre Texier, qui soignait une blessure, mais quand même, j'ai l'impression, de la façon que Saint-Louis a parlé, aurait pu revenir au jeu plus rapidement. Ouais, ça fait quelques matchs qu'il est laissé de côté, 5 matchs pour être précis.
Ouais.
A marqué un but, a été utilisé sur le premier trio. Vous avez pensé quoi de la performance de Texier pour un gars qui, là, soudainement, il y a tellement de joueurs qui sont de retour qu'on va se retrouver avec une autre belle patate chaude, peut-être un petit peu moins chaude, d'ici la fin de la saison.
Ben, Texier était bon. 14 minutes, 49 secondes, marque un but, marque le but égalisateur, passe d'une place sur la passerelle de presse à l'ailier gauche du premier trio avec Suzuki et Slavkovski. Moi, je retiens dans ses propos après le match quand il nous disait « Je me sentais bien, j'avais de la force dans mes jambes et je retrouvais mon explosivité. » Ça, c'est un message que Texier, on l'avait déjà dit à ce balado, mais Texier cachait une blessure au bas du corps, probablement à l'aine. Aux Jeux olympiques avec la France, il patinait pour de nombreux matchs sur une seule jambe. Oui, c'était la décision de Martin Saint-Louis. Oui, il se retrouvait comme 13e attaquant, mais il y avait aussi une considération santé dans son cas. Donc, peut-être que le repos va lui faire du bien. Ça donne une carte de plus à l'offensive du CH. Cole Caulfield, si c'est un virus, le prochain match, c'est seulement samedi. Techniquement, devrait réintégrer la formation. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu...
On va avoir commencé à manger un peu de solide.
Oui, oui. Ouais. Est-ce que tu ressors immédiatement Texier ou tu sors un autre attaquant? Peut-être tu dois regarder le quatrième trio en ce moment. Il faut identifier comme il faut le quatrième trio. Philippe Dano, Josh Anderson et Brendan Gallagher. Brendan Gallagher joue peu de minutes, mais ça reste un vétéran. C'est difficile de le sortir de la formation. Josh Anderson, hier, du côté d'Ottawa, dans la catégorie mauvaise punition, c'était assez élevé, merci, à sa punition qui a mené au premier but des Sens. Encore là, c'est un vétéran. Est-ce que tu sors Josh Anderson ou si tu te tournes puis tu dis que la cible la plus facile s'appelle Zachary Bolduc? Mais Bolduc joue bien avec Jake Evans et Kirby Dack, donc c'est un casse-tête qui ne sera pas facile à assembler.
Tu ferais quoi, toi? Guillaume ou Jeff?
Ben, moi, c'est plate à dire, mais j'irais du côté de Brendan Gallagher. Josh Anderson n'est pas...
T'as pas de cœur. Gallagher, il s'est battu cette semaine. Il a jeté les gants, là.
Tu sais, Gallagher, il a 2 matchs en 2 jours en fin de semaine. Ouais. Autant cette saison, il a joué tous les matchs. Je ne veux pas dire de niaiserie. Ouais, il a participé à tous les matchs. Peut-être qu'en fin de saison, les 2 matchs en 2 jours, tu peux lui donner une petite pause. Tu t'assois avec lui, tu lui expliques, tu lui lances le message. Ça, c'est le rôle de Martin Saint-Louis. Ça reste le rôle des entraîneurs. Mais je suis d'accord avec Guillaume, ça pourrait être Brendan.
Parce que Josh Anderson n'est pas tant plus convaincant que Brendan Gallagher par les temps qui courent, mais il amène une dimension que peu de joueurs apportent. Là. Ça,
il joue en infériorité numérique aussi. Là.
Puis il va toujours mesurer 6 pieds 2, 6 pieds 3 et peser 200 quelques livres.
La fameuse citation de Mike Babcock au sujet de Frédéric Gauthier.
Exact. Fait que non, tu sais, je pense que ça serait dur de le retirer de la formation juste pour cet aspect-là de son jeu qui est vraiment unique. Gallagher, c'est plate à dire, mais il a ralenti, puis ça commence à être difficile. Là. Des fois, en fin de match, les présences sont très courtes et il se rend de peine et de misère au banc. Là. C'est un gars qui a tout donné pour l'équipe, mais je pense qu'on arrive à l'étape de cette reconstruction-là où les choix sont plus difficiles. Puis ça ne veut pas dire de l'écarter des plans jusqu'à la fin de la saison, mais la stratégie de peut-être un match sur deux, je pense que ça commence à faire du sens parce que tu as beaucoup d'options qui sont, à mon avis, mieux que Brendan Gallagher en ce moment. Puis Texier l'a prouvé hier. Je pense qu'on l'a plus vu dans ce match-là. Évidemment qu'il y a eu un petit peu plus d'exposure. Là. Il y a eu plus de chances de qualité sur un premier trio et tout ça que Gallagher peut en avoir, mais on l'a plus vu. Puis c'est un joueur qui correspond un peu plus à l'identité de cette équipe-là, qui joue de façon rapide et tout ça. Donc, je pense qu'on est... On approche de cette étape-là là, dans le cas de Brendan Gallagher.
Puis je pense que les statistiques le montrent hier. Là, 14-30 de jeu pour Anderson, 8-48 pour Gallagher. Là, on n'est presque oh, double.
Puis Gallagher, c'est à l'exception du 5 contre 5, va obtenir quelques secondes au sein de la deuxième vague en avantage numérique, mais ne touche pas à patinoire en désavantage numérique. Hier, du côté d'Ottawa, c'est 8 minutes et des poussières pour Brendan Gallagher. Mm-hmm. Peut-être, par contre, qu'il faisait partie du groupe de joueurs frappés par le fameux virus mystère chez le CH. Mon cerveau pensait à mystère et virus. Ça
a mélangé les deux. Oui, peut-être. Exact. Je disais un peu plus tôt, les Canadiens, c'est 7 points en 8 matchs, même 8 en, points en 4
7 points sur 8. 7 points
en 4
matchs et sur une possibilité de 8.
Sur 5 jours, c'est ça que je voulais ajouter.
Ouais, là, c'est trop de chiffres, Nick. Vas-y, un à la fois. Ouais,
moi, on m'a dit, quand j'ai été engagé, on m'a dit qu'il n'y avait pas de maths. Fait que, c'est ça que j'ai obtenu. Mais oui, donc, 7 points sur 8 en l'espace de 5 jours, c'est super positif et en 4 matchs.
Exact.
Mais s'il y a un chiffre qui n'a pas fonctionné, c'est celui 60. C'est-à-dire jouer 60 minutes de jeu dans un match. C'est pas ce que les Canadiens ont fait. Encore hier contre les Sénateurs, c'est pas arrivé. Contre les Maple Leafs qui sont à feu, honnêtement. C'est...
Non, mais j'ai une théorie du côté d'Ottawa. Là. Écoute, en deuxième période, le CH s'est endormi, mais ils ont sorti un violonneux entre la première et la deuxième qui a trouvé une façon d'endormir l'édifice au grand complet. C'était un coup de publicité pour l'île du Prince-Édouard, donc un groupe de l'île du Prince-Édouard avec l'espèce de musique style irlandaise, écossaise. Il était bon, mais c'est juste qu'il a gardé le même son pendant à peu près 9 minutes. Puis je ne sais pas si c'était assez fort pour résonner jusque dans le vestiaire, mais il y a eu des effets. Il y a eu des moments où l'équipe s'endormait. Tu sais, en plus, Ottawa, c'est une journée où il y a du verglas. Ça a beau être un duel CH-Ottawa, ça reste Canada. Donc, ouais, tu dois trouver une façon de te réveiller.
Non, mais ça aurait pris Claude Scott, le trompettiste dans les Nordiques.
Ouais,
là. Lui, il gardait
lui,
ses nerfs.
C'était bon. Non, mais
montait sur la baie vitrée, faisait semblant de tomber. Là. Ça, c'était tout
Je fais des blagues avec ça, mais c'est vrai que la constance peut représenter un enjeu. Martin Saint-Louis va dire que c'est un petit cheval de bataille à la fois. Là, dernièrement, c'était de réussir à fermer les matchs, maintenir l'avance. Ils l'ont fait lors des 3 derniers matchs contre les Sens, contre les Leafs, contre les Kings à Los Angeles, où l'équipe adverse retire son gardien puis là, vient attaquer. Hier, par contre, ça tenait à un fil, maintenir cette avance-là. Ça reste des choses à corriger d'ici la fin de la saison. Il y a toujours du pain sur la planche.
Et c'est aussi dans la manière hier où c'est la mise en échec de Nick Cousins, Alexandre Carrier, qui a changé la dynamique du match vraiment.
Oui, mais Cousins a joué son rôle de petit fatigué.
Oui. Cousins a été Cousins. Mais c'est ça. Mais ça, c'est un apprentissage pour les éliminatoires. La pénalité qu'on parlait de Josh Anderson.
C'est l'après-coup de la mise en échec de Cazette. Oui, absolument.
C'est ça. Faut que ça change pour les séries éliminatoires parce que on le sait comment. On l'a vu en séries éliminatoires l'année dernière, là, Tom Wilson, comment il était capable d'allumer des feux entre les Canadiens. Faut que tu aies appris tout ça, là, c'était Anderson.
Et même mardi, il n'y a pas eu vraiment d'élément déclencheur, mais le Canadien aurait pu terminer la première période avec une avance de 4 ou 5-0. Oh, ouais. C'était épouvantable. Les Maple Leafs en première période, c'était catastrophique. On a marqué 2 buts, mais en deuxième période, on est revenu, puis on dirait que c'est un match complètement différent. C'est les Maple Leafs qui ont dominé cette période-là, puis ça a un peu coupé le rythme du Canadien qui avait une facilité déconcertante à établir ce rythme-là en première, puis c'est tombé pour aucune raison en deuxième période. Fait que il n'y a pas d'élément déclencheur, mais en série, tu peux pas t'asseoir sur une avance de 2-0 puis te dire que ça va tenir jusqu'à la fin parce que ça ne se produira pas. Donc, un autre élément, tu sais, je pense que oui, il y a des éléments déclencheurs parfois, comme ça a été le cas hier, mais il y a d'autres fois où il y a un petit relâchement naturel qui s'installe dans l'équipe en raison d'une avance ou peu importe. On n'est pas capable d'aller chercher ce but-là qui va couper les jambes de l'adversaire, mettre ça 3-0, 4-0, puis après ça, tu peux t'asseoir un peu plus sur ton avance. Mais je pense que ça aussi, ça va être un élément qui va être à corriger d'ici la fin de la saison.
Oui, deux matchs week-end. On voit les équipes qu'on venait de voir dans l'Ouest, les Sharks, les Ducks. Les Sharks, ça se bat pour les séries éliminatoires. On est à un point. Les Ducks, on est en feu. On est maintenant installé au sommet de la section Pacifique. Vous vous attendez à quoi pour ces deux rencontres-là? Ou c'est sûr qu'on va avoir pris des notes dans tout dans le cas des deux équipes? Là?
Écoute, les deux derniers matchs contre à San Jose et Anaheim, on parlait de festival offensif les deux fois. Je pense que les deux équipes vont vouloir resserrer le jeu. Point de vue hockey, moi, je suis curieux de voir. J'ai hâte de revoir McLean Celebrini. Je l'ai trouvé tellement bon à Milan aux Jeux olympiques. Hâte également de regarder Will Smith à ses côtés. À ces deux équipes, le fun, qui vont amener du jeu rapide, offensif. Ça se marie bien aussi à celui du CH. Ça peut être des confrontations, là, talent contre talent. Les Ducks avec Cutter Gauthier, Beckett Soneke. Ça reste une équipe le fun, mais connaissant Martin Saint-Louis, il ne voudra pas revivre deux très hauts pointages comme on a vu en Californie.
Et les Sharks sont présentement sur une séquence de 3 défaites. Ils jouent ce soir contre les Bruins de Boston. Donc, ils pourraient arriver à Montréal sur une séquence de 4 défaites. Donc,
s'ils veulent maintenir
leur
espoir de participer aux séries, c'est... Ils ont besoin
de
gagner.
Ils sont pas loin.
Mais... Puis ils ont le bonheur de jouer dans la plus faible division de la Ligue nationale.
Ouais, c'est la course de tortue dans l'Ouest.
Oui, exact.
Ça a comme changé de section. Là.
Avec un requin, un canard puis des tortues. Exactement. on retourne à Ottawa. GF, s'il y a une équipe qui espérait remonter dans la course aux séries, c'est bien les Sénateurs. Mais là, on a appris une très mauvaise nouvelle. Jake Sanderson, qui va être absent pour plusieurs semaines. Blessure au haut du corps contre le Kraken de Seattle. En deuxième période, mise en échec de Brendan Montour. Pouf! Tu sais, dans la catégorie joueur, tu ne pouvais pas te permettre de perdre à Ottawa, c'était Jake Sanderson. Comment on a réagi là-bas? Est-ce que
on garde
le moral là, ou vraiment?
On garde le moral. Moi, hier, je parlais avec Thomas Chabot avant le match, évidemment, contre le CH. On essayait de se consoler en se disant les Sénateurs avaient une fiche de 9-1-2 à leurs 12 derniers matchs. Maintenant, on parle de 9-2-2. Malgré cela, il reste quoi? À 5 points d'une place aux séries. Je pense que c'est 5 points des Red Wings et 6 points des Bruins, si ma mémoire est bonne.
C'est exactement ça.
Donc, c'est encore possible, mais il y a les Blue Jackets de Columbus qui sont devant eux. Et là, tu demandes aux Sénateurs de poursuivre cette course-là sans ton meilleur défenseur. Jake Sanderson est le numéro 1 à la ligne bleue des Sens. Ça fait mal. Puis si tu lis moindrement entre les lignes, c'est pas une absence d'une ou deux semaines.
Non.
L'espoir, c'est peut-être de le revoir pour un, deux ou trois matchs en fin de saison ou de façon peut-être plus réaliste pour le premier tour des séries. Donc, haut du corps qui ressemblerait à une épaule dans le cas de Jake Sanderson, c'est le type de défenseur difficile à remplacer. Puis je regardais le match d'hier. Thomas Chabot a joué 28 minutes. Chabot n'aura pas le choix de manger une plus grosse part du gâteau, mais ne pourra pas non plus jouer 28 minutes jusqu'à la fin de la saison. C'est beaucoup, beaucoup de minutes.
Surtout que Chabot a eu sa part de blessure au fil des années. Tu sais jamais, là, mais tu peux pas y en demander autant que ça. Puis je regarde la formation des... Quand je dis qu'on... on aurait pu perdre un Drake Batterson, mettons, ou Kachuk ou Cousins, peu importe. Mais des Jake Sanderson, il n'y en a pas d'autres dans cette équipe.
Non, puis tu sais, je parlais...
On parle souvent, il va falloir prendre la relève en équipe. Là.
Ouais.
Nick Jensen, Nicolas Martin-Palot, Tyler Cleven.
C'est un peu comme si Lane Hudson était blessé du côté de Montréal. Là.
Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je pense qu'on a plus d'éléments. Tu peux mettre Dobson, Matheson a déjà eu. T'as vraiment une profondeur.
Ouais.
Oui, ça ferait mal parce que là on se retrouverait avec Jack Hyde et Strouble en uniforme. Mais je veux dire, à Ottawa, là, ça passe vite là, après.
Puis l'autre point qui est difficile pour les Sénateurs, c'est après une petite discussion avec Thomas Chabot, je parlais avec Jordan Spence. Puis Spence, il disait, oui, on amasse des points, mais ce qui est dur, c'est que tu te réveilles le matin, tu regardes le classement, puis tu as à peine bougé. Ça gagne tellement dans l'Est. Là, l'espoir, par contre, s'il y a une petite porte qui s'ouvre, moi, je pense que cette porte-là vient de Détroit. Dylan Larkin, qui va manquer deux semaines. Andrew Kopp, qui est blessé également. Les Red Wings... historiquement, ont tendance à glisser un petit peu au classement en fin de saison. Oui, ils ont acquis Justin Falk à la ligne bleue, mais Détroit pourrait peut-être glisser. Mais en disant ça, il y a peut-être les Blue Jackets qui vont rentrer dans la porte à pleine vitesse pour prendre cette position-là.
Ouais, les Sénateurs sont quand même un petit retard, mais qui à cette période-ci de l'année est quand même assez important. Là. 5 points, ouais. C'est non négligeable.
Il reste
on
quoi?
On parle
il reste
de série,
matchs,
puis j'écoutais le match en anglais hier parce que c'était la seule option disponible sur notre application de visionnement. Puis les commentateurs parlaient déjà comme si on a une ambiance de série à Ottawa, comme si c'était chose faite que les Sénateurs se dirigeaient vers les séries, mais ça va vont devoir aligner les victoires. Bon, ils étaient sur une bonne séquence, là, mais va falloir que ça tienne jusqu'à la fin de la saison parce que d'après moi, ça va jouer dans les derniers matchs là, dans l'Est parce que tout le monde semble vouloir jouer du coude, là.
Oui, non, c'est ça. Puis dans le cas de... Je regardais les statistiques là, depuis que Ullmark est revenu là, au jeu. Là, il avait une fiche de 5-1-2. Fait que, enfin, ton gardien sur place, tes gardiens, tout ça, tu perds ton défenseur numéro 1. Je pense que c'est le coup, c'est le clou qu'on peut pas se permettre d'ajouter dans le cercueil des Sénateurs. Mais bon, on va regarder ça d'un coup de GF ou toi, vous retournez faire des voyages cette année du côté d'Ottawa parce que les choses iraient bien. Hey, les gars, on a atteint les deux tiers, trois quarts, je vais le dire. Encore des maths, c'est pas facile aujourd'hui. on a atteint les trois quarts de la saison de la Ligue nationale de hockey du calendrier. Course au trophée. On s'est prononcé sur le site de lnh.com. C'est en train d'être publié. Vous pouvez aller voir les gens, vous pouvez aller voir ça sur le site. Justement, on s'est prononcé pour chaque trophée. Je veux vous entendre. On va débattre un petit peu de tout ça. Tout dépendant de ce que vous aviez avancé. Trophée Calder. On espérait beaucoup d'Ivan Demidov en début de saison. Il a marqué hier. Il a une super bonne saison. Mais réellement, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'intégrer dans cette course-là puis s'approcher de Matthew Schaeffer?
Non.
Pour moi, il n'y a pas
de débat. c'est Matthew Schaeffer et uniquement Matthew Schaeffer. Puis en plus, les Islanders, en date d'aujourd'hui, participent aux séries éliminatoires. Sans Matthew Schaeffer, les Islanders ne participeraient pas aux séries éliminatoires. C'est simplement pour décrire son impact à 18 ans, un jeune 18 ans. Matthew Schaeffer est 2 km en avance sur tout le monde.
Puis il se blesse demain, il se blesse demain, il finit pas la saison. Demidov ou Seneke?
Matthew Schaeffer.
Ah, OK.
Ah ouais, okay. Même s'il se blesse, ça ne changera pas. Là, on est rendu à 60
quelques matchs, là, c'est assez.
Ouais.
Je veux dire, on pourrait même mettre son nom dans la course au Trophée Hart. C'est l'importance de Matthew Schaeffer. Il n'y a personne avant le début de la saison qui avait de grands espoirs envers les Islanders. Puis son arrivée a vraiment tout changé. Puis tu parles à ses coéquipiers dans le vestiaire, puis c'est lui là, qui amène cette nouvelle énergie-là. Puis en plus d'amener cette énergie-là, bien, sur la glace, il est dominant dans toutes les facettes. Fait que pour moi, il n'y a vraiment aucun débat. Là, autant Ivan Demidov a eu de bonnes séquences, très, très talentueux. Tu vois quel talent lui sort par les oreilles, mais au niveau de l'impact dans son équipe, c'est impossible à battre ce que Matthew Schaeffer est en train de faire.
Trophée Norris, le trophée Cale Makar, qu'on pourrait dire dans les dernières années. Mais est-ce que Cale Makar est au sommet pour vous? Est-il même dans votre top 2?
Moi, je l'ai gardé au sommet, mais là, ça chauffe. Je pense que Zach Werenski peut très bien finir au premier rang pour le trophée Norris. Puis même Quinn Hughes du côté du Minnesota, de la façon qu'il a dynamisé l'attaque du Wild, c'est pas impossible, mais je considère que la course reste principalement entre Makar et Zach Werenski. Si jamais les Blue Jackets entrent dans le bal printanier, Werenski va gagner encore plus de points puis pourrait devancer Cale Makar.
Guillaume, toi?
Moi, j'ai inversé. J'ai donné une chance à Werenski pour les trois quarts de la saison. Est-ce que ça va tenir jusqu'à
bon
la
choix.
Toute fin? Ben, honnêtement, c'est au niveau des responsabilités, au niveau de l'impact offensif, c'est très, très comparable à Cale Makar. Puis j'ai l'impression que Werenski est peut-être un peu moins bien entouré aussi du côté de Columbus. Là, c'est sa brigade défensive à lui. Ben, Makar aussi, mais je veux dire, avec Devin Taves, on connaît la chimie entre les deux, ça fonctionne bien. J'ai tendance à donner une petite longueur d'avance à Werenski pour cette année, jusqu'ici en tout cas.
Ben, moi, j'ai Werenski loin devant, honnêtement. Loin devant Makar, mais Quinn Hughes, qui est mon deuxième choix. J'ai Makar troisième. Makar, bonne saison, mais sans plus. Werenski, c'est incroyable ce qu'il fait à Columbus. Là, je vous demande, là, Evan Bouchard doit avoir combien de points d'avance sur les autres pour juste obtenir un vote dans votre top 5? L'avez-vous mis dans votre top 5? Parce que c'est la question. Puis je regarde, là, les gens, là, on a des publications, on met les
Moi, je vais être honnête, là, il n'est pas dans mon top 5. J'ai aucune gêne à dire qu'il n'est pas dans mon top 5. Evan Bouchard, c'est un quatrième attaquant. Il y a malheureusement pas de vote pour le meilleur quatrième attaquant. Et défensivement, il y a trop de carences pour que je lui donne un vote.
Non, mais à partir de combien de points d'avance tu lui donnes? Tu fais comme, OK, je vais lui donner un petit vote, là.
Mais même l'année là, qu'Eric Karlsson avait eu 100 points, j'avais pas voté pour Eric Karlsson pour le trophée Norris. Trophée Norris, non. C'est le meilleur défenseur.
Il l'avait gagné pourtant.
Il l'avait gagné. J'avais un vote aussi en travaillant pour le Journal de Montréal. Mais tu dois être bon défensivement. C'est un ensemble. Il y a beau avoir 15 points d'avance à la fin de l'année. Non. Je vais donner un vote à Miro Iskanen avant. Je vais donner un vote à Lane Hudson avant. Je vais voter pour Moritz Seider avant lui. Schaefer avant lui. Bouchard pourrait être 11e sur ma liste. Là.
OK, à ce point-là. Je vais amener le bémol suivant. Karlsson, son année où il a gagné Norris avec 100 points, c'est que s'il ne se pointait pas à l'attaque, il n'y avait rien qui arrivait à anyway de chez les Sharks. C'était lui ou rien partout sur la patinoire. Donc oui, il faisait des erreurs en arrière, mais à un moment donné, si lui n'allait pas en attaque, il n'y avait pas de but. C'est pas le cas d'Evan Bouchard. C'est là la différence qui est majeure.
Il a une bonne saison. Il a une bonne saison offensivement. Il a un tir foudroyant. C'est un bon défenseur, mais c'est un défenseur qui est vraiment à caractère offensif puis un petit peu trop.
Mm-hmm. Oui, exactement. Moritz Seider a une saison spectaculaire. Les gens ne le voient peut-être pas, là, mais de la manière qu'il est utilisé, Seider, c'est un joueur qui commence toutes ses présences en zone défensive. Puis malgré tout ça, cette année, il y a 45 points en 65 matchs, Seider. Moi, il est dans mon top 5. Je le place en avant de Lane Hudson pour cette raison-là. Lane Hudson qui, je pense que c'est dans le top 5 officiel du site, là, les gens. Là, mais c'est ça, il y avait quelques questions. Pourquoi Seider? Sur les réseaux sociaux, là, on a publié chacun des classements là, depuis le début de la semaine. Puis c'était une des questions. Pourquoi pas Bouchard? Pourquoi Seider? C'est pour ça, Seider.
Oui, mais allez voir les tirs bloqués, allez voir les mises en échec. Ouais. Tu vas voir le nom de Moritz Seider.
Il est incroyable.
C'est ça. Puis moi, pour le Norris, un des critères, j'aime ça que le défenseur joue en infériorité numérique aussi.
Oui, okay. Oui, exactement. Trophée de Jack Adams, à quel moment? Moi, c'est un trophée, ça me fait toujours rire parce que peu importe le nombre de points d'avance qu'un entraîneur peut avoir sur toutes les autres équipes, la qualité de la saison, c'est toujours l'underdog qui gagne, ou presque. Puis, je pense que c'est ça cette semaine. Là, je suis en train de regarder dans notre classement officiel du site. Là, je vais vous le sortir dans quelques petites secondes. Bon, c'est notre gagnant officiel du site, Céline DeRoff, qui lui a une demi-saison de qualité puis une demi-saison très mauvaise. Jared Bednar est quatrième. Même si l'Avalanche avait une avance incroyable. Puis je me souviens, la semaine passée, tu as dit, JF, trop de talent puis trop de vedettes dans une équipe, ça peut aussi être un problème. Est-ce qu'on ne reconnaît pas assez, je ne sais pas pour qui vous avez voté, vous allez voter, mais est-ce qu'on ne reconnaît pas assez les qualités d'un entraîneur quand il vient de gérer une équipe puissante comme l'Avalanche
c'est
était?
Fort probable.
Comme les Bruins il y a quelques années aussi, puis Bruce Cassidy n'avait pas été considéré. Là.
Si je ne me trompe pas, John Cooper n'a jamais gagné le... Asper. Trophée d'entraîneur de l'année de Jack Adams, on peut un peu vérifier, là, mais moi, j'ai gardé Jared Bednar au sommet. J'ai placé Bednar premier, puis Dan Muse deuxième et Lindy Ruff troisième. Dan Muse, ce qu'il réussit à faire avec les Pingouins, une équipe qui n'a pas un talent fou, je trouve ça quand même impressionnant, mais à un moment donné, comme tu dis, il faut être capable de reconnaître. Oui, tu as des joueurs talentueux, mais tu es capable de leur permettre de rouler. Donc, je vote pour Jared Bednar.
Moi, je regarde mon classement, là, puis j'ai un sweet spot pour les underdogs, visiblement, parce que John Cooper, Bednar, je les ai pas dans mon classement. Je suis allé avec Lindy Ruff parce que ce qui se passe chez les Sabres depuis le congédiement du directeur général. Là,
c'est Lindy Ruff ou c'est Jarmo Kekalainen?
Ben là, à quel point le directeur général qui arrive change quelque chose,
je veux dire, il y a un point précis dans la saison où tout vire à Buffalo, puis c'est là.
Et Cooper n'a jamais gagné en passant les
Oui, c'est ça, j'ai vérifié. Puis ça, ça n'a aucun sens que John Cooper ait jamais été nommé, alors que tu es entraîneur d'équipe Canada. Ça n'a aucun sens. Mais
Cooper va te dire qu'il a gagné la Coupe Stanley deux fois, puis il prend ça avant son nom sur le Jack Adams.
Tu parles de Cooper. Cette année, le Lightning, c'est pas une puissance à la base. Puis au moment où on a voté le deux semaines à peu près.
C'est pas loin d'être une puissance.
Avec Vasilevski dans le but, puis Kucherov à l'attaque, il faut considérer.
Les aviez-vous dans le top 5 cette année? En début de saison.
Faudrait que je regarde mes choses. Mais je pense
j'ai l'impression qu'il n'était peut-être pas dans votre top 5.
Toi, t'avais sûrement les Hurricanes puis les Stars parce que t'es là année après année.
Effectivement, les Hurricanes et les Stars. Pas premier, deuxième.
Mais Guillaume, c'était qui ton premier choix? Là, il me semble que tu as parlé de négliger.
C'est Lindy Ruff, c'est évident.
J'ai même mis Martin Saint-Louis, j'ai mis Patrick Roy. Toutes des équipes qui ont besoin d'un peu plus de travail pour se hisser dans les hauteurs du classement. Là. Moi,
j'ai mis Bednar, Roy,
plusieurs joueurs talentueux, plusieurs égaux dans une même équipe, mais...
J'ai Bednar, Muse, McLellan, Ruff et Roy. Fait que, tu sais, j'ai quand même Roy, McLellan et des équipes qui n'ont pas fait des séries éliminatoires, mais je me dis, à un moment donné, faut que tu respectes la qualité de l'équipe, ce qui se passe. Tu sais, souvenez-vous, là, attends, j'espère juste pas me tromper, l'année des 135 points des Bruins, là, qu'on a perdu en première ronde, c'est Bruce Cassidy qui était là?
Non, c'est Jim Montgomery.
C'était pas Joe Sacco, c'était Bruce Cassidy. Mm-hmm. C'était Jim Montgomery, t'as raison.
C'est Jim Montgomery. C'est Montgomery qui a gagné aussi. C'est quoi
ta question? C'était Jim Montgomery, OK.
Oui, c'était Montgomery.
Fait que Bruce Cassidy était déjà parti, c'est vrai. Bruce Cassidy était parti à Vegas. Parfait. J'étais pas sûr. Donc,
puis Montgomery avait gagné le trophée Jack Adams pour se faire surprendre au premier tour des séries.
Bon, fait que ça prend une saison qui est carrément record pour qu'un entraîneur qui dirige le meilleur club de la Ligue obtienne.
Ouais, puis les premiers mois de la saison, l'Avalanche se destinait vers ce type de saison. Là, il était quoi? Il était plus 60 pratiquement dans les plus et moins. Ça ralentit un petit peu, mais oui, c'est souvent le trophée de l'équipe Cendrillon.
Oui, exactement. Trophée Vézina, votre meilleur gardien.
Ils sont plus 82, l'Avalanche, en passant. C'est quand même très impressionnant encore. Vézina, moi, j'ai le bon vieux André Vasilevski, numéro 1. Ilya Sorokin, numéro 2. Karel Vejmelka, numéro 3. Logan Thompson, numéro 4. Et j'ai placé John Gibson, numéro 5.
J'ai pas mal à peu près la même chose, sauf j'ai fait une petite place à Alex Lyon dans mon top 5, au numéro 5 quand même. Là. On ne veut pas le placer trop haut, mais...
Donc, c'est vous deux qui donnez trop d'importance aux victoires versus au travail du...
Mais moi,
Alex Lyon avait quand même... Lyon, parce qu'il y a quand même des bonnes statistiques
toi,
avancées.
Tu devais parler de Vejmelka, mais Vejmelka joue pratiquement tous les matchs.
Je parlais carrément de Vasilevski. C'est vrai qu'il est
Vasilevski
cette année.
Edman s'est blessé. Il y a eu plusieurs blessés chez le Lightning. À un moment donné, les défenseurs, ils étaient rendus au 9-10-11 de l'organisation.
Mais Ilya Sorokin joue avec peu d'éléments, dont un défenseur recru qui est numéro 1. La saison de Sorokin n'est pas reconnue à sa juste valeur présentement.
Il est deuxième sur mon...
Il est deuxième. Je suis d'accord, mais En tout cas, moi, j'ai Sorokin devant Vasilevski. Surtout que là, honnêtement, le Lightning a connu une petite baisse de régime aussi. Là, donc, ça va se replacer, je ne suis pas inquiet. Mais Sorokin, ne dormez pas sur Sorokin d'ici la fin de la saison. Si, on a parlé de Schaefer, là, mais si les Islanders font les séries éliminatoires, ça va être grâce à Sorokin. Pour les autres, je suis d'accord avec Thompson, Swayman. Puis finalement, Trophée Hart.
Il n'est pas facile, le Trophée Hart, cette année. Ouais, je trouve qu'il y a une belle lutte. Moi, j'ai gardé Nathan MacKinnon au sommet. Je pense que j'ai Macklin Celebrini 2. Mm. Mais ça, c'est vraiment le type de vote si jamais
selon la
les
définition.
Sharks devaient participer aux séries. Celebrini serait probablement au sommet de ma liste. J'ai MacKinnon, Celebrini, Kucherov 3, McDavid 4 et David Pastrnak 5.
Oh! On a un match parfait ici, là.
Ah oui, exactement. Identique.
Hein? Ouais, exactement. On se parle trop, je pense.
Ah,
ouais,
ben oui, avec tout le temps que vous passez ensemble. Mais j'ai Connor McDavid premier parce que au moment où on a fait nos votes, non seulement McDavid était premier marqueur de la Ligue, mais MacKinnon et l'Avalanche avaient ralenti un peu. Mais j'ai Zach Werenski dans ce groupe-là.
Ah, c'est un bon choix aussi.
C'est la même chose que Celebrini. Si les Blue Jackets font les séries éliminatoires, il y a un seul responsable, c'est Werenski. Puis j'aurais pas de problème à le mettre numéro un. Au même titre que Jeff, tu disais que t'aurais pas de problème avec Celebrini. Puis Kucherov, ben écoute, je veux dire, là, il s'est mis en marche tout le temps. C'est tout le temps ça qui arrive, là, début décembre. Kucherov se met en marche. Edmund n'est pas là, tu l'as nommé. Si Vasilevski est connu comme un gardien numéro un pour le Vézina, faut que Kucherov soit un peu là. Puis je le sais, je vais tout le temps entendre défensivement, tatata.
Alors, mais
il reste que grâce à Kucherov, là, Darren Radish est parti pour une saison de 60-70 points. Ouais. Donc,
comme tout le monde l'avait prévu, ça.
Il fait à peu près le salaire minimum, puis il est parti pour la gloire, Darren Radish. Donc, Kucherov.
Mais je pense que nos collègues là-dedans. Chez NHL.com ont placé Kucherov au premier rang.
Pour vrai?
Ouais.
Il y a quand même beaucoup de différence entre nos classes. Il faut faire attention. D'ailleurs, si vous êtes un site qui reprend des informations à gauche et à droite, le graphique LNH.com est différent de celui de NHL.com. Ouais. Puis je pense qu'on vote différemment des collègues parce que c'est, il y a quand même beaucoup de différences.
Toujours une grosse différence.
Je sais pas
différence.
Nos critères...
Je sais, peut-être parce qu'on se parle plus, peut-être que parce qu'on est une plus petite équipe, LNH.com, ouais, donc on échange vrai. Peut-être plus, on a plus de débats. Pour le trophée Calder, là, il y en avait 2-3 dans l'équipe qui avait Yaroslav Askarov. Moi, je suis arrivé et j'ai montré les statistiques avancées d'Askarov, puis tout le monde a débarqué. C'est peut-être ça, tandis que NHL.com, plus grosse équipe, plus étendu, on se jase un peu moins. Je pense que c'est la différence. Mais effectivement, si vous reprenez nos classements, LNH.com a sa salle de nouvelles. NHL.com a sa salle de nouvelles. On exact. Est différent. On n'analyse pas la chose de façon. C'est pas une ligne de rédaction, là, LNH
NHL. Pour le Hart, à la fin de l'année, il va peut-être y avoir une quinzaine de noms. Mm. Puis ça va rester mérité. Puis je voyais même des collègues anglophones qui ont donné des votes probablement de cinquième place à Matthew Schaefer pour le trophée Hart. Guillaume en parlait tantôt. C'est pas loufoque non plus. Tu pourrais en donner à Quinn Hughes aussi pour le trophée Hart, mais Quinn Hughes a joué moins longtemps du côté du Minnesota.
Ouais,
il y a un paquet de joueurs qui peuvent mériter une place. Puis même là, s'il se blesse pas, s'il manque pas 4 semaines, moi, Sidney Crosby, avec la saison des Pingouins, on parle pas le meilleur joueur. C'est le joueur le plus utile à son équipe. Crosby a transporté les Pingouins sur ses vieilles épaulettes depuis le jour 1 de la saison.
Oui, Crosby, écoute, vétéran depuis tellement longtemps. On change de sujet, on va maintenant parler du futur. Des meilleurs espoirs québécois pour... certains des meilleurs espoirs, oui, de la JMQ. Guillaume, tu es allé faire quelques tournées dans les dernières semaines. Tu es allé au Saguenay où les Saguenayens, bon... Écoute, y a-tu moyen pour eux de ne pas compter un but à chaque lancé depuis quelques semaines? C'est incroyable. On a quoi, 54 buts à nos 5 derniers matchs. T'es allé là, t'es allé aujourd'hui, on disait plus tôt, t'es allé à Blainville-Boisbriand aussi pour l'Armada. On va commencer par jaser de l'Armada. Xavier Villeneuve, qui est, comme je disais, plutôt un des meilleurs espoirs, sinon le meilleur espoir québécois pour le prochain repêchage. Mais il vient de manquer 23 matchs pour une blessure au bas du corps qu'il a subi le 4 janvier. C'est pas ça que tu veux à ton année de repêchage. Il doit capoter dans sa tête. Il doit être inquiet. Tu y as parlé aujourd'hui, tu as parlé à ses coéquipiers. Comment il a géré ça, Xavier, alors que là, il s'approche d'un retour au jeu? Pas encore venu, là.
Non, c'est ça, j'ai parlé à Xavier. Je n'ai pas parlé aujourd'hui. J'ai parlé la dernière fois, c'était à la fin janvier, je pense. L'Armada était venue au Centre Bell pour une activité d'équipe, voir un match. Puis à ce moment-là, il me parlait de son retour qui était imminent. Là, puis il disait ça, la blessure, c'est pas grand-chose. Puis mon retour approche. Finalement, on est rendu le 12 mars. Toujours pas joué depuis le 4 janvier. Pour lui, c'est certain que c'est difficile parce que non seulement il est dans son année de repêchage, mais c'est la grosse saison pour l'Armada de Blainville-Boisbriand aussi, qui s'est outillé pour faire un bon bout de chemin en série, qui est une équipe aspirante cette année. Donc, c'est pas l'idéal de manquer 23 matchs. Si le plan tient, on prévoit lui faire jouer les deux derniers matchs de la saison régulière. Donc, aurait manqué, là, si tout ça se réalise, il aurait manqué 26 matchs au total dans cette saison-là. Donc, c'est beaucoup de hockey, non seulement pour l'exposure qu'il n'a pas eu en raison de cette absence-là, mais aussi pour son développement personnel. Je veux dire, c'est une saison où tu t'améliores, où tu essaies de travailler sur certains trucs, puis il n'a pas eu cette occasion-là. C'est certain que ça a été difficile mentalement pour Xavier Villeneuve de passer à travers tout ça, mais son entraîneur Alexandre Jacques disait aujourd'hui, à partir du moment, le problème avec la blessure à Xavier Villeneuve, c'est que c'est une blessure qui le fatiguait depuis un bout, puis à un moment donné, on a décidé, bon, OK, on va régler ça avant que les séries arrivent puis que tu commences les séries blessées. Donc, on a décidé de le mettre à l'arrêt, mais ça a pris du temps pour qu'on cible vraiment quel était le problème puis comment le régler. Puis cette période-là, il dit c'est là que ça a été le plus difficile pour Xavier Villeneuve parce que là, on était un petit peu dans l'inconnu à savoir c'est quoi qui cause cet inconfort-là, cette douleur-là. Puis il dit à partir du moment où on a mis le doigt là-dessus sur le bobo, puis on a dit voilà la façon dont on le règle, puis voilà l'échéancier, tout ça, ben là, Xavier Villeneuve est revenu en force mentalement, puis il avait un petit peu plus espoir, voyait un peu plus la lumière au bout du tunnel. Donc pour lui, ce serait l'idéal de jouer au moins deux matchs avant la fin de la saison, puis après ça, entrer en série, puis de recommencer à faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire générer de l'offensive, marquer des buts et donner un show, comme disait Justin Carbonneau ce matin. Là.
Ouais. Petite question pour toi, Guillaume. C'est pas le scénario rêvé là, de manquer quoi peut-être 25 matchs en fin de saison pour Xavier Villeneuve, mais le fait que ce soit, pour reprendre le jargon, là, le fait que ce soit un « late », c'est déjà sa troisième saison à la JMQ à Blainville-Boisbriand. J'imagine que les recruteurs, le carnet de notes au sujet de Villeneuve, il est déjà rempli. Là. Est-ce que ça peut réellement nuire à sa cote ou le fait qu'il y en ait à sa troisième année, des matchs des espoirs, il en a participé, il devrait revenir au jeu en série, ça devrait pas trop lui faire mal pour le repêchage?
Non, c'est ça, j'en parlais. J'ai lâché un petit coup de fil à Jean-François Danfous hier, qui est recruteur pour le bureau central de recrutement de la Ligue nationale. Puis, tu sais, il dit c'est un joueur qu'on a vu abondamment dans les deux dernières années. Puis ça disparaît pas en raison d'une blessure. Fait que les recruteurs savent exactement à quoi s'attendre de Xavier Villeneuve. Ils connaissent son talent. Ça s'est pas évaporé à cause de la blessure. Puis l'autre point qu'il amenait, c'est que l'Armada, techniquement, devrait faire un bon bout de chemin en série. Donc, on va avoir l'occasion de voir Xavier Villeneuve peut-être pour un mois et demi, deux mois en séries éliminatoires dans des situations où la pression est forte, où il doit mettre cette équipe-là sur ses épaules. Donc, pour lui, c'est pas la meilleure nouvelle, mais il y a quand même de l'espoir là, avec les séries qui s'en viennent et tout ça. Il y a moyen de venir finir sans beauté cette saison de repêchage-là, puis de vraiment prouver sa valeur aux recruteurs dans des moments importants comme les séries éliminatoires.
Surtout que l'Armada, ça a été peut-être un petit peu plus long de se mettre en marche. On les voyait peut-être plus haut, je ne sais pas, corrige-moi, là, mais on est présentement deuxième dans l'Ouest, alors qu'on avait fait toutes les acquisitions durant l'été. Carbonneau, qui était resté chez l'Armada, Bill Zonon, qui s'est amené, c'est ce que j'essayais de dire. C'est un choix de première ronde, lui aussi. On avait ajouté plein d'éléments. Comment on... T'sais, est-ce qu'on se dit le meilleur est à venir pour cette équipe-là?
Ben, il y a beaucoup de blessures aussi. Puis en début de saison, il y a eu la situation des gardiens, là, l'espoir des Canadiens, Arseni Radkov, qui était avec l'Armada, finalement, ne livrait pas la marchandise. On a procédé à une transaction à la date limite. On est allé chercher William Lassell, qui est avec le Sonic de Rimouski l'an dernier, qui connaît une très, très bonne saison. Fait que tranquillement, tu sais, je pense que les choses tombent en place. Mais ça a été long en raison de ça, en raison des blessures. On n'a jamais vraiment joué avec une formation complète. Tu sais, Bizonon est revenu, s'est blessé à son deuxième match, a manqué encore du temps. Et puis quand il est revenu, ben là, c'était Xavier Villeneuve qui n'était pas là. Puis il n'est pas là depuis ce temps-là. Donc, on ne peut pas dire... On n'a pas d'idée à quoi ressemble l'Armada en santé.
Ouais, je comprends.
Fait que je pense que ça joue un peu... ça pèse un peu dans la balance. Après ça, la question, ça va être de savoir est-ce que... Une fois que cette équipe-là retrouve tous ses éléments en série, est-ce qu'on va être capable de créer cette chimie-là puis d'aller jusqu'au bout, de respecter les attentes qui ont été placées envers cette équipe-là? Ça va être la question qui reste à répondre, mais tu sais, il y a quand même eu beaucoup d'inconstances du côté de l'Armada là, dans cette saison-là, fait que ça s'est peut-être répercuté sur le rendement de certains joueurs. Justin Carbonneau s'en est bien tiré quand même. C'est le premier joueur à atteindre le plateau des 50 buts dans la LHMQ cette saison. Là. Donc, pour lui, ça s'est plutôt bien passé.
Je t'amène chez les Saguenayens. Comme je disais plus tôt, là, on n'arrête pas de marquer. C'est incroyable. Je veux dire, quand tu es allé là, tu étais en plein milieu un peu de cette incroyable séquence-là.
C'était juste avant. Fait que
c'était juste avant, excuse-moi.
J'attribue ça à ma présence à Chicoutimi. Ouais.
À ta visite à Chicoutimi, ouais. C'est ça,
moi
exactement.
Aussi,
il y a quand même... Tu sais, on parlait un peu de l'Armada, justement, qu'il y a Carbonneau qui est un choix de première ronde, Villeneuve qui devrait en être un, Zonon qui en est un, des choix dans la première, dans la Ligue nationale de hockey. Je regarde chez les Saguenayens, c'est pas nécessairement une équipe qui a des aussi gros noms. Mais là, ça fonctionne à plein régime. On a-tu mis le doigt sur quelque chose avant ton arrivée, puis c'est là que c'est arrivé? Mais tu l'expliques comment? Surtout Maxime Massé, là, qui est premier marqueur de la Ligue présentement. Massé, qui est un choix de troisième ronde des Ducks d'Anaheim. C'est-tu un peu la montée de cette équipe-là qu'on attendait depuis plusieurs années, tout le monde ensemble? Ou?
Ben exact. C'est le plan. Ce que je trouve intéressant, quand je suis allé au Saguenay, je suis allé là pendant la pause olympique. Ça fait plusieurs années que je suis quand même Maxime Massé, puis son développement et tout ça. Il a même fait le carnet sur notre site pendant son année d'admissibilité au repêchage. Puis dès 2022, dès son repêchage, on parlait du plan 2026, puis on se disait, ben le plan, c'est on bâtit autour de Maxime Massé, puis en 2026, il va être le joueur le plus dominant de la LHMQ, puis on va être l'équipe qui va pouvoir aller jusqu'au bout. Et là... fallait que ça se produise quand même. Puis, ouais, force est d'admettre, on constate ça, c'est ça. Tout est tombé en place. On a bâti un bon noyau. Il y a quand même une dizaine de joueurs là, qui sont ensemble depuis 3 ou 4 ans à Chicoutimi, qui grandissent ensemble, qui ont vécu de l'adversité. Donc, ça fait partie de la recette du succès. Puis cette année, bien, on s'est dit, à la date limite, on a un noyau solide. On peut faire des grosses acquisitions, ajouter un peu à ce noyau-là. Puis on est allé chercher Alexis Bernier, Thomas Lavoie, Jordan Tourigny, 3 capitaines, 3 défenseurs probablement qui pourraient être numéro 1 partout dans la Ligue. On les amène dans la même équipe. On a un Alex Wang qui est là aussi du côté de Chicoutimi depuis plusieurs années. La brigade défensive des Saguenayens est vraiment la meilleure de la Ligue et de loin. Les deux gardiens, Luca Beckman, un choix des Sénateurs d'Ottawa qui s'est amené aussi au Saguenay avec Raphaël Précourt qui est pas repêché mais qui connaît une excellente saison. Fait que tu regardes la brigade défensive, les gardiens, ça c'est réglé. Et puis l'attaque, ben, tu l'as dit, là on a débloqué, on marque des buts à la pelletée mené par Maxime Massé, mais vraiment... chaque trio peut contribuer de belles façons du côté de Chicoutimi. Ouais, ben,
quand
vraiment,
ta moyenne, c'est au-dessus de 10 buts par match, je pense que tout le monde contribue d'une manière ou d'une autre.
Oui, oui, non, c'est vraiment... Je pense que la culture d'équipe, il est pour beaucoup aussi du côté de Chicoutimi. Là, c'est quelque chose que Yannick Jean a voulu implanter dès son arrivée. Puis c'est vraiment intéressant. Moi, je trouvais ça... J'ai peut-être un petit parti pris pour les Saguenayens parce que c'est l'équipe avec laquelle j'ai commencé à couvrir du hockey à l'époque quand j'habitais au Saguenay. Mais Yannick Jean a joué pour cette équipe-là, a gagné la dernière coupe du président des Saguenayens et est revenu comme entraîneur-chef en 94.
Avec Éric Fichaud. Ça se peut-tu?
Éric Fichaud.
Ouais.
Il y a eu une coupe avec Félix Potvin, une coupe avec Éric Fichaud. Puis depuis ce temps-là, c'est le grand vide du côté de Chicoutimi. Fait que là, on sent l'engouement.
On s'était un peu fait voler l'année de la COVID, là, que la saison avait été arrêtée d'un trait en plus. Là. Peut-être pas voler le bon terme, là, mais on y allait pour la COVID.
On avait acquis Raphaël Hervé-Pinard, Félix Bibeau était là, Raphaël Lavoie, si je me souviens bien. On avait une grosse équipe, puis on a annulé les séries. Fait que c'était l'aboutissement du premier cycle de Yannick Jean en 2020. Puis ça ne s'est pas donné en raison de la pandémie. Puis là, on a reparti un cycle de 5 ans. Puis là, on arrive au moment où on peut récolter les fruits là, du côté de Chicoutimi. Puis c'est le fun à voir. Là, tu sais, le centre Georges Vézina, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais ça, c'est un amphithéâtre mythique. Les Saguenayens, c'est un club avec beaucoup d'histoire aussi. Fait que c'est le fun de voir que les gens sont au rendez-vous. Je vois des publications de passer, là, puis on ouvre les places debout là, du côté du Saguenay depuis quelques matchs. Fait qu'il n'y a plus de place assise. Les gens paient pour des billets debout. Fait que ça annonce quand même un beau printemps. Là. Ensuite de ça, la question du côté de Chicoutimi, c'est est-ce que, tu sais, autant l'Armada a des choses à prouver, là, les Saguenayens l'ont prouvé en saison régulière, ça va être peut-être en mesure de transposer ça en série puis de ne pas crouler sous la pression là, une fois que quand les choses vont se corser là, en troisième, peut-être en demi-finale puis en finale. Là.
C'est de voir. Je ne suis pas certain de la coupe d'Éric Fichaud. On parlait, là, mais...
J'ai écrit
93-94, champion. OK, non, parfait, parce que sur le site où je regardais, il n'y avait pas... Normalement, il y a un petit trophée là, quand ça dit qu'on a gagné.
Si les gens veulent retourner sur le site, là, j'ai écrit justement un texte qui faisait allusion à cette conquête-là. Puis les célébrations, les partisans ont sauté sur la glace là, à la fin du match. Puis on a célébré avec l'équipe là, pour cette conquête-là. Fait que ça a quand même marqué les esprits du côté du Saguenay.
Le petit trophée en question, l'indication n'est pas là. Ça dit qu'il est allé à Coupe Memorial, mais c'est pourquoi
C'est le Titan de Laval qui a recevé la Coupe Memorial. Les Saguenayens avaient battu le Titan de Laval pour la Coupe du Président, mais Laval avait battu les Saguenayens pour atteindre la finale puis perdre contre les Blazers de Kamloops. Tucker et compagnie. Je me souviens, j'étais dans les gradins.
Pourquoi tu t'en souviens comme ça?
Parce que j'avais 14 ans et mon beau-frère jouait pour le Titan de Laval. Donc, Patrick Boileau était un des défenseurs du Titan. Je me souviens de la magnifique coupe de cheveux d'Éric Fichaud, là, les cheveux blonds dans le vent. Il était beau bonhomme, le Fish, à l'époque.
Encore beau bonhomme aujourd'hui.
C'était un très bon gardien à ses années juniors.
Oui, il avait fait l'équipe. C'est ça que j'ai, meilleur gardien même de la Coupe Memorial là, cette année-là.
Ouais.
Ça, c'était les années Morissette à Laval, hein, House of Pain et tout ça.
C'était les années où c'était très tranquille du côté du vieux Colisée de Laval.
C'était des grosses années. Il avait transporté ça finalement à Granby où il était allé gagner par la suite. Là, mais ouais, c'était le fameux folklore. Puis ça vaut à peine. Là, il y a plein de podcasts. Là, puis des podcasts où on raconte un peu ces histoires-là de cette époque-là dans la JMQ. Il y en a des super bons. C'était une autre époque. C'était du folklore, mais...
mais tu sais, je regarde. Je me souvenais que Kamloops avait une grosse équipe. Là, mes souvenirs de jeunes ados. Là, mais il y avait, pour vous donner une idée, Darcy Tucker... Nat Dominichelli, qui a une bonne carrière en Europe, mais il y avait Shane Doan, il y avait Jerome Higginla, Nolan Baumgartner comme défenseur. Steve Passmore qui a joué un petit peu, mais Jason Strudwick, c'était une très, très grosse machine dans l'Ouest canadien, puis il avait battu Laval en finale.
Ben, je me demande même si Kamloops n'était pas allé à la Coupe Memorial comme 3 fois en 4 ans ou quelque chose comme
ça. Oui, c'était l'année et il perdait jamais dans ces années-là.
C'était vraiment, vraiment la puissance au Canada, les Blazers de Kamloops. Hey, les gars, merci d'avoir été avec moi sur le balado aujourd'hui, comme d'habitude.
Ça fait plaisir.
Alors, balado jeudi. On va reprendre ça la semaine prochaine, mercredi. On va retrouver notre rythme habituel comme d'habitude. Donc, d'ici là, ben, vous pouvez lire tout ce que Guillaume et Jean-François écrivent sur lnh.com. Suivez-nous, réseaux sociaux. Abonnez-vous sur plateforme d'écoute, peu importe où vous nous écoutez, pour être certain de ne pas manquer un balado. Les gars, merci encore d'avoir été là. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.